Vos amis n'avaient pas tort.
En effet, Bredou, que l'on avait spécialement attaché à votre personne, nous fut précieux. Mais avec cette ardeur propre à tout néophyte qui veut se distinguer, il poussa le zèle un peu loin et contraria mes plans en se permettant, de sa propre initiative, de vous frapper.
Oh, c'est là un petit malheur.
Mais non, et je l'ai sévèrement réprimandé. Je dois dire cependant, en sa faveur, qu'il a été pris au dépourvu par la rapidité inattendue de votre enquête. Vous nous eussiez laissé quelques heures de plus que vous auriez échappé à cet attentat impardonnable.
Et que j'aurais eu le grand avantage, sans doute, de subir le sort de messieurs Ganimard et Sholmès.
Précisément. Et moi, je n'aurais pas connu les affres cruelles que votre blessure m'a causées. J'ai passé là, je vous le jure, des heures atroces. Et aujourd'hui encore, votre pâleur m'en est un remords cuisant. Vous ne m'en voulez plus?
La preuve de confiance que vous me donnez en vous livrant à moi sans condition, il m'eût été facile d'amener quelques amis de Ganimard. Cette preuve de confiance efface tout.
Parlait-il sérieusement? J'avoue que j'étais fort dérouté. La lutte entre ces deux hommes commençait d'une façon à laquelle je ne comprenais rien. Moi qui avais assisté à la première rencontre de Lupin et de Sholmès dans le café de la gare du Nord, je ne pouvais m'empêcher de me rappeler l'allure hautaine des deux combattants, le choc effrayant de leur orgueil sous la politesse de leur manière, les rudes coups qu'ils se portaient, leur feinte, leur arrogance. Ici, rien de pareil. Lupin, lui, n'avait pas changé. Même tactique et même affabilité narquoise. Mais à quel étrange adversaire il se heurtait?
Était-ce même un adversaire?
Vraiment, il n'en avait ni le ton ni l'apparence. Très calme, mais d'un calme réel, qui ne masquait pas l'emportement d'un homme qui se contient. Très poli, mais sans exagération. Souriant, mais sans raillerie. Il offrait avec Arsène Lupin le plus parfait contraste, si parfait même que Lupin me semblait aussi dérouté que moi. Non, sûrement Lupin n'avait pas en face de cet adolescent frêle, aux joues roses de jeune fille, aux yeux candides et charmants. Non, Lupin n'avait pas son assurance ordinaire. Plusieurs fois, j'observais en lui des traces de gêne. Il hésitait, n'attaquait pas franchement, perdait du temps en phrases doucereuses et en mièvreries. On aurait dit aussi qu'il lui manquait quelque chose. Il avait l'air de chercher, d'attendre. Quoi? Quel secours? On sonna de nouveau. De lui-même et vivement, il alla ouvrir. Il revint avec une lettre.
« Vous permettez, messieurs ?»
Il décacheta la lettre. Elle contenait un télégramme. Il le lut. Ce fut en lui comme une transformation. Son visage s'éclaira, sa taille se redressa, et je vis les veines de son front qui se gonflaient. C'était l'athlète que je retrouvais, le dominateur, sûr de lui, maître des événements et maître des personnes. Il étala le télégramme sur la table et, le frappant d'un coup de poing, s'écria
« Maintenant, monsieur Beautrelet, à nous deux !»
Beautrelet se mit en posture d'écouter, et Lupin commença, d'une voix mesurée mais sèche et volontaire,
« Jetons bas les masques, n'est-ce pas? Et plus de fadeurs hypocrites. Nous sommes deux ennemis qui savons parfaitement à quoi nous en tenir l'un sur l'autre. C'est en ennemis que nous agissons l'un envers l'autre. Et c'est par conséquent en ennemis que nous devons traiter l'un avec l'autre.
Traiter ?» fit Beautrelet surpris.
Oui, traiter.
Je n'ai pas dit ce mot au hasard, et je le répète, quoi qu'il m'en coûte, et il m'en coûte beaucoup.
C'est la première fois que je l'emploie vis-à-vis d'un adversaire. Mais aussi, je vous le dis tout de suite, c'est la dernière fois. Profitez-en. Je ne sortirai d'ici qu'avec une promesse de vous. Sinon, c'est la guerre.
Beautrelet semblait de plus en plus surpris. Il dit gentiment,
« Je ne m'attendais pas à cela.
Vous me parlez si drôlement. C'est si différent de ce que je croyais. Oui, je vous imaginais tout autre. Pourquoi de la colère, des menaces? Sommes-nous donc ennemis parce que les circonstances nous opposent l'un à l'autre? Ennemis, pourquoi?
Lupin parut un peu décontenancé, mais il ricana en se penchant sur le jeune homme.
« Écoutez, mon petit, il ne s'agit pas de choisir ces expressions. Il s'agit d'un fait certain, indiscutable. Celui-ci. Depuis 10 ans, je ne me suis pas encore heurté à un adversaire de votre force. Avec Ganimard, avec Herlock Sholmès, j'ai joué comme avec des enfants. Avec vous, je suis obligé de me défendre. Je dirais plus. De reculer. Oui. À l'heure présente, vous et moi, nous savons très bien que je dois me considérer comme le vaincu. Isidore Beautrelet l'emporte sur Arsène Lupin. Mes plans sont bouleversés. Ce que j'ai tâché de laisser dans l'ombre, vous l'avez mis en pleine lumière. Vous me gênez, vous me barrez le chemin. Eh bien, j'en ai assez. Brédoux vous l'a dit inutilement. Moi, je vous le redis en insistant pour que vous en teniez compte. J'en ai assez. »
Beautrelet hocha la tête.
« Mais enfin, que voulez-vous ? » ?»« La paix. Chacun chez soi, dans son domaine. C'est-à-dire, vous, libre de cambrioler à votre aise, et moi, libre de retourner à mes études. »
« À vos études, à ce que vous voudrez, cela ne me regarde pas.
Mais vous me laisserez la paix. Je veux la paix. En quoi puis-je la troubler maintenant ?»
Lupin lui saisit la main avec violence.
« Vous le savez bien. Ne feignez pas de ne pas le savoir. Vous êtes actuellement possesseur d'un secret auquel j'attache la plus haute importance. Ce secret, vous étiez en droit de le deviner. » Mais vous n'avez aucun titre à le rendre public. Êtes-vous sûr que je le connaisse? Vous le connaissez, j'en suis sûr. Jour par jour, heure par heure, j'ai suivi la marche de votre pensée et les progrès de votre enquête. À l'instant même où Brédoux vous a frappé, vous alliez tout dire. Par sollicitude pour votre père, vous avez ensuite retardé vos révélations. Mais aujourd'hui, elles sont promises au journal que voici. L'article est prêt. Dans 1 heure, il sera composé. Demain, il paraît. C'est juste. »
Lupin se leva et coupant l'air d'un geste de sa main.
« Il ne paraîtra pas. Il paraîtra !»
fit Beautrelet qui se leva d'un coup. Enfin, les deux hommes étaient dressés l'un contre l'autre. J'eus l'impression d'un choc, comme s'ils s'étaient empoignés à bras-le-corps. Une énergie subite enflammait Beautrelet. On eût dit qu'une étincelle avait allumé en lui des sentiments nouveaux, l'audace, l'amour-propre, la volupté de la lutte, l'ivresse du péril. Quant à Lupin, je sentais au rayonnement de son regard sa joie de duelliste qui rencontre enfin l'épée du rival détesté.
« L'article est donné ? Pas encore. Vous l'avez là, sur vous ? Pas si bête ? Je ne l'aurais déjà plus. Alors, c'est un des rédacteurs qui l'a. » Sous double enveloppe. Si à minuit je ne suis pas au journal, il le fait composer.
Ah, le gredin! Il a tout prévu.
Sa colère fermentée, visible, terrifiante. Beautrelet ricana, moqueur à son tour et grisé par son triomphe.
Tais-toi donc, moutard! Tu ne sais donc pas qui je suis et que si je voulais. Ma parole, il ose rire!
Un grand silence tomba entre eux, puis Lupin s'avança, et d'une voix sourde, ses yeux dans les yeux de Beautrelet,
« Tu vas courir au grand journal. »« Non. »« Tu vas déchirer ton article. »« Non. »« Tu verras le rédacteur en chef. »« Non. »« Tu lui diras que tu t'es trompé. »« Non. » Et tu écriras un autre article où tu donneras de l'affaire d'Embrumésy la version officielle, celle que tout le monde a acceptée. Non.
Lupin saisit la règle en fer qui se trouvait sur mon bureau et sans effort,
la brisa net.
Sa pâleur était effrayante. Il essuya des gouttes de sueur qui perlaient à son front. Lui, qui jamais n'avait connu de résistance à ses volontés, l'entêtement de cet enfant le rendait fou. Il imprima ses mains sur l'épaule de Beautrelet et scanda.
« Tu feras tout cela, Beautrelet. Tu diras que tes dernières découvertes t'ont convaincu de ma mort, qu'il n'y a pas là-dessus le moindre doute. Tu le diras parce que je le veux, parce qu'il faut qu'on croie que je suis mort. Tu le diras surtout parce que si tu ne le dis pas,
parce que si je ne le dis pas,
ton père sera enlevé cette nuit, comme Ganimard et Herlock Sholmès l'ont été. »
Beautrelet sourit.
« Ne ris pas. Réponds. »«
Je réponds qu'il m'est fort désagréable de vous contrarier, mais j'ai promis de parler. Je parlerai. »«
Parle dans le sens que je t'indique. »«
Je parlerai dans le sens de la vérité. »« C'est une chose que vous ne pouvez pas comprendre, vous. Le plaisir, le besoin plutôt, de dire ce qui est et de le dire à haute voix. »« La vérité est là, dans ce cerveau qu'il a découverte. » Elle en sortira toute nue et toute frémissante. L'article passera donc tel que je l'ai écrit. On saura que Lupin est vivant. On saura la raison pour laquelle il voulait qu'on le crût mort. On saura tout.
Et il ajouta tranquillement.
Et mon père ne sera pas enlevé.
Ils se turent encore une fois tous les deux. Leurs regards toujours attachés l'un à l'autre.
Ils se surveillaient.
Les épées étaient engagées jusqu'à la garde.
Et c'était le lourd silence qui précède le coup mortel. Qui donc allait le porter?
Lupin murmura,
« Cette nuit, à 3 heures du matin, sauf avis contraire de moi, deux de mes amis ont ordre de pénétrer dans la chambre de ton père, de s'emparer de lui de gré ou de force, de l'emmener et de rejoindre Ganimard et Herlock Sholmès. »
Mais tu ne comprends donc pas, brigand, que j'ai pris mes précautions? Alors tu t'imagines que je suis assez naïf pour avoir, bêtement, stupidement, renvoyé mon père chez lui, dans la petite maison isolée qu'il occupait en rase campagne?
Oh, le joli rire ironique qui animait le visage du jeune homme. Rire nouveau sur ses lèvres. Rire où se sentait l'influence même de Lupin. Et ce tutoiement insolent qui le mettait du premier coup au niveau de son adversaire. Il reprit.
« Vois-tu, Lupin, ton grand défaut, c'est de croire tes combinaisons infaillibles. Tu te déclares vaincu. Quelle blague! Tu es persuadé qu'en fin de compte, et toujours, tu l'emporteras. Et tu oublies que les autres peuvent avoir aussi leurs combinaisons. La mienne est très simple, mon bon ami. »
C'était délicieux de l'entendre parler. Il allait et venait, les mains dans ses poches, avec la crânerie, avec la désinvolture d'un gamin qui harcèle la bête féroce enchaînée. Vraiment, à cette heure, il vengeait de la plus terrible des vengeances toutes les victimes du grand aventurier.
Et il conclut. « Lupin, mon père n'est pas en Savoie. Il est à l'autre bout de la France. » Au centre d'une grande ville, gardée par 20 de nos amis, qui ont ordre de ne pas le quitter de vue jusqu'à la fin de notre bataille. Veux-tu des détails? Il est à Cherbourg, dans la maison d'un des employés de l'arsenal. Arsenal qui est fermé la nuit, et où l'on ne peut pénétrer le jour qu'avec une autorisation et en compagnie d'un guide.
Il s'était arrêté en face de Lupin, et le narguait comme un enfant qui fait une grimace à un camarade.
Qu'en dis-tu, maître?
Depuis quelques minutes, Lupin demeurait immobile. Pas un muscle de son visage n'avait bougé. Que pensait-il? À quel acte allait-il se résoudre? Pour quiconque savait la violence farouche de son orgueil, un seul dénouement était possible. L'effondrement total, immédiat, définitif de son ennemi. Ses doigts se crispèrent. J'eus une seconde la sensation qu'il allait se jeter sur lui et l'étrangler.
« Qu'en dis-tu, maître ?»
répéta Beautrelet. Lupin saisit le télégramme qui se trouvait sur la table,
le tendit et prononça, très maître de lui, « Tiens, bébé, lis-la. »
Beautrelet devint grave, subitement impressionné par la douceur du geste. Il déplia le papier et tout de suite, relevant les yeux, murmura
« Que signifie ? Je ne comprends pas. »
« Tu comprends toujours bien le premier mot ? Le premier mot de la dépêche ? C'est-à-dire le nom de l'endroit d'où elle fut expédiée ? Regarde.
Cherbourg.
Oui, 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 Cherbourg. Et après ?
Et après ?
Il me semble que la suite n'est pas moins claire.
Enlèvement du colis terminé. Camarades sont partis avec lui et attendront instruction jusqu'à 8 heures du matin. Tout va bien.
Qu'y a-t-il donc là qui te paraisse obscur ?
Le mot colis ?
Bah, on ne pouvait guère écrire « Monsieur Beautrelet, père ».
Alors quoi ?
La façon dont l'opération fut accomplie. Le miracle grâce auquel ton père fut arraché de l'arsenal de Cherbourg, malgré ses 20 gardes du corps.
Bah, c'est l'enfance de l'art.
Toujours est-il que le colis est expédié.
Que dis-tu de cela, bébé ?
De tout son être tendu, de tout son effort exaspéré, Isidore tâchait de faire bonne figure. Mais on voyait le frissonnement de ses lèvres, sa mâchoire qui se contractait, ses yeux qui essayaient vainement de se fixer sur un point. Il bégaya quelques mots, se tut, et soudain, s'affaissant sur lui-même, les mains à son visage, il éclata en sanglots.
Dénouement imprévu, qui était bien l'écroulement que réclamait l'amour-propre de Lupin, mais qui était autre chose aussi, autre chose d'infiniment touchant et d'infiniment naïf. Lupin eut un geste d'agacement et prit son chapeau, comme excédé par cette crise insolite de sensiblerie. Mais au seuil de la porte, il s'arrêta, hésita, puis revint pas à pas, lentement.